Le texte de l'Épître aux Romains, plutôt pour cette fête de Saint Léon le Grand, et qui nous ramène au service que le Seigneur nous demande à chacun de nous dans son Église. Saint Paul nous a donné quelques aspects de son propre ministère qui peut aussi inspirer le nôtre, le service que nous avons à rendre. Il vient de donner aux chrétiens de Rome un ensemble d'exhortations pratiques et qui ont fait l'objet des chapitres précédents, 11 et suivants. Il a exalté l'œuvre admirable du Créateur, sa sagesse sans limite, qui apporte le salut à tous les hommes qu'il a créés. Il les exhorte à chanter sa miséricorde, sa gloire. Et puis ensuite, il passe à des exhortations diverses. Et là, nous avons entendu le texte, il reconnaît d'avoir eu peut-être un peu trop d'audace dans la façon de donner ses exhortations. Il s'excuse même de cette audace, parce qu'il reconnaît que les fidèles auxquels il s'adresse étaient de vrais chrétiens déjà, qui avait déjà une vie spirituelle authentique. Et il ne peut donc que les encourager à persévérer et à grandir dans la foi. Mais il semblerait qu'il s'adresse à une communauté de Rome qu'il n'a pas lui-même fondée, mais qui est semblable à toutes les autres qu'il a rencontrées au cours de ses voyages. Dit-il, depuis la Dalmatie, où il annonçait l'Évangile, en mettant son honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ avait été prononcé, afin de ne pas bâtir sur des fondations posées par d'autres. Eh bien, dans cette retenue que Paul a, nous pouvons lire un respect ici du travail que d'autres ont accompli. Un respect du Saint-Esprit qui a animé ces personnes et qui dirige aussi la mission de l'Église. Comment sont nées ces communautés que visitent les apôtres sans les avoir eux-mêmes créées? Nous sommes au premier siècle et l'évangélisation se propage avec les premiers témoins du Christ ressuscité. Du temps de Jésus, ils formaient un groupe d'apôtres et de disciples qui ont reçu de la part de Jésus-même la mission de continuer son œuvre. À Pentecôte, le groupe s'était enrichi de pèlerins juifs de la diaspora qui reviennent ensuite chez eux et qui constituent librement, par bouche à l'oreille, des groupes de prière qui gardent la prière juive, ainsi que les règlements alimentaires. Ces premiers groupes ont formé le nom, portent le nom de Nazaréens, du nom de Jésus de Nazareth. Ils annoncent Jésus, mort et ressuscité. Son enseignement, que nous avons entendu ce matin, et ses miracles, à partir de ce que la tradition orale en a retenu. Ces groupes apparaissent ici et là. Ils s'enrichissent mutuellement de souvenirs vivants, de ce qu'ils ont pu voir et entendre de Jésus, de ses miracles, et petit à petit naît une mémoire collective. Le besoin de se faire sentir ensuite de mettre certaines traditions par écrit pour la prédication et pour l'usage de la liturgie. Alors, pour parler de Jésus, ces petits premiers chrétiens ont recours aux Écritures, à l'exemple de Jésus lui-même, avec les pèlerins d'Emmaüs. Mais du fait de la résurrection de Jésus, de son exaltation dans les cieux, alors il faut aller plus loin que simplement l'annonce d'un Jésus prophète ou maître de sagesse. Et la prédication va alors annoncer une nouvelle mémoire progressive de Jésus Seigneur. Et c'est par la prière, par le don du Saint-Esprit, que ces premiers chrétiens vont prendre conscience qu'on peut invoquer maintenant Jésus comme Fils de Dieu. Et nous voyons que c'est dans la prière qui est essentielle pour cette reconnaissance. Et pour nous, c'est un enseignement aussi qui peut nous aider dans les personnes que nous rencontrons pour faire une catéchèse qui n'est pas qu'uniquement une catéchèse intellectuelle, mais qui apporte la nécessité, le besoin de la prière. Et rappelons, bien sûr, puisque nous en vivons, que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous dit que Jésus est Seigneur et qu'il nous fait aussi prier le Père. Sans le Saint-Esprit, ces premiers chrétiens ne seraient pas arrivés à la conscience de Jésus Seigneur. Alors, c'est à partir de cette nouvelle mémoire collective que vont être rédigés les évangiles. Et Paul va répandre cette nouvelle évangélisation en l'enrichissant de réflexions théologiques. Il utilisera des concepts que ne connaissent pas l'Écriture. Mais il est évident, comme par exemple des termes comme justification ou rédemption. Mais toutes ces églises qui naissent un peu partout ont en commun maintenant de prêcher Jésus mort et ressuscité. Et pourtant, 20 ans après, il devient très difficile de faire l'exact portrait de Jésus. On le connaîtra comme un prédicateur, un thaumaturge, parlant l'araméen de culture hébraïque. Et quand les églises qui se constituent en son nom, ce sont des groupes qui se réfèrent les uns et les autres dans cette mémoire collective à des fondateurs particuliers. On aura Paul, Pierre, Apollos, Jacques. Et chacun de ces groupes aura ses règles précises, ses rites même. Et elles ont toutes retenu les formules de l'Eucharistie comme sacrifice et mémorial. Ça, c'est le fond. Eh bien, de ce bref rappel de la naissance du christianisme, on peut voir avec quelle liberté le Saint-Esprit a fait naître ces groupes, qui sont de vraies petites églises, c'est-à-dire des communautés qui se sont donc réclamées de Jésus, Fils de Dieu. Saint Paul a rencontré ces groupes tout au long de sa vie, et il leur a apporté un complément de catéchèse, comme il le dit. Et il assure que c'est un ministère que lui a confié le Seigneur pour les instruire davantage, pour régler des questions qui les troublent et même qui les divisent. Eh bien, je vois en ces jours, personnellement, où on peut déplorer malheureusement une certaine difficulté de la pratique chrétienne, je vois des essais de ce jour qui nous rappellent les premiers temps, de groupes qui se constituent ici ou là dans les villages et qui se rassemblent de temps à autre pour des temps de vie de prière. Il me semble qu'on est ramené aux origines. Ils ont besoin de l'aide de prêtres ou de diacres qui les visitent régulièrement. Chez nous, en Ariège, le père Renaud, Antoine Renaud, vit ce genre d'évangélisation en posant sa caravane dans un village et puis en visitant les habitants qui l'accueillent ordinairement bien, avec quelques refus de temps en temps. Cette forme de présence est peut-être plus facile à réaliser que dans un milieu urbain. Mais il est évident que même les campagnes et les petites villes d'Ariège que je connais, elles sont tout aussi déchristianisées. Saint Paul nous dit que le ministère qu'il a reçu de Jésus lui a donné une certaine autorité à exhorter, à éclairer sur des questions difficiles de la vie chrétienne. Et il dit que peut-être a-t-il été un peu trop directif, mais il reconnaît la valeur de la vie spirituelle de ces chrétiens qu'il rencontre. Et c'est ça le plus important. Cette conscience que tous ces hommes que nous rencontrons sont nés de Dieu, habités par le Saint-Esprit, et qu'il faut faire, d'une certaine façon, faire advenir en eux jusqu'à leur conscience cette qualité, cette vocation d'être enfant de Dieu. Eh bien, ce qu'a fait donc Saint Paul en parcourant toute l'Asie et pour rencontrer ces communautés nous parle très fort. parce que nous sommes souvent, nous-mêmes, en relation avec des personnes qui ont le plus souvent abandonné toute vie chrétienne, qui n'ont à peine retenu, et qui n'ont presque rien retenu de la pratique très ancienne qu'ils ont reçue du catéchisme. La plupart du temps, ces personnes sont en mal d'être. Elles ont eu recours à des guérisseurs, des magnétiseurs, et elles se sont trouvées encore plus mal encore. Comment s'y prendre pour leur dire que le Seigneur est bien toujours là, au cœur de leur vie? C'est d'abord la conscience nous-mêmes que nous en avons, que le Saint-Esprit effectivement habite ces personnes et qu'il nous habite nous-mêmes en relation avec eux pour leur faire découvrir ce qui est uniquement que seul le Saint-Esprit peut faire découvrir. Saint Paul nous montre que c'est sur cette base de la présence du Saint-Esprit que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Il serait faux de plaquer une doctrine avant l'heure qui ne fera passer que comme de l'eau sur le dos d'un canard. Bon, les gens vont écouter, mais ça ne correspond pas à leur être profond. Toute personne a son propre enrichissement, le don de sa personne née de Dieu, et c'est cela qui comporte. Et c'est donc à partir de cette conscience que nous avons de ce fond divin qui habite toute personne que nous pouvons travailler, que nous pouvons rappeler ses fondements. Et cette attitude d'accueil de notre part est absolument nécessaire. Il faut que nous aimions vraiment ces personnes que nous rencontrons. C'est un travail délicat de faire advenir, vous le savez, puisque vous travaillez vous-même et moi aussi, à essayer de faire monter à la conscience, au cœur des personnes, la conscience de la présence du Seigneur Jésus dans leur vie. C'est un travail délicat, beaucoup plus difficile qu'un enseignement. L'enseignement, c'est facile. Mais cela, il faut vraiment faire une écoute profonde de la personne. Et il faut arriver jusqu'au moment où dans la personne va vous dire « Ah ben, je vais vous dire en ce moment quelque chose que j'ai pas encore dit. » C'est-à-dire qu'on va toucher son cœur profond. Alors, ça, c'est une action du Saint-Esprit qui nous dépasse tous. Et c'est pourquoi il nous faut prier. Il nous faut prier le Saint-Esprit en ayant vraiment conscience que par le baptême, nous avons, nous aussi, cette mission vraiment donnée à chacun de nous, d'évangélisation. Et donc, l'exemple des premiers chrétiens que nous venons de rappeler, construisant des petites églises locales, par leur vie de prière, par leur témoignage, est donc pour nous, pour notre temps, me semble-t-il, un exemple même d'évangélisation. Alors, bon courage à l'œuvre du Seigneur.